15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations. Idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il sera à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin urgentiste, mais ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux problèmes de peau chez l'adulte. Acné, taches en tout genre, de soleil, de vieillesse. Avec notre invitée, la dermatologue Laurence Netter, nous verrons toutes les solutions à la disposition des patients aujourd'hui. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour aujourd'hui. Il va nous parler des vertiges, quelles en sont réellement leurs causes, quand faut-il s'inquiéter et consulter. Il nous dira tout. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, aujourd'hui, un geste médical que redoutent beaucoup de femmes enceintes, l'épisiotomie. À quoi ça sert et comment s'en remettre plus vite après un accouchement? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, on va parler de positions sexuelles. Quelles sont celles, s'il y en a, qui procurent le plus de plaisir aux femmes? Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine Santé Bien-être, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Carole, 28 ans, on écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je suis infirmière, je travaille souvent la nuit, je fais beaucoup de quarts de nuit. J'aurais voulu savoir si c'était dangereux pour mon métabolisme et ma santé de travailler trop souvent la nuit. Merci, bonne journée.
Alors c'est vrai Jimmy, on peut comprendre quand même l'inquiétude de tous ceux qui travaillent la nuit ou en horaire décalé, car il faut reconnaître quand même que ces derniers temps, il y a eu pas mal de preuves scientifiques, d'études qui sont accumulées et qui montrent qu'il y a des conséquences néfastes de ces rythmes sur la santé.
Oui, donc la réponse est évidemment oui, c'est dangereux pour la santé. Et d'ailleurs, il y a un organisme qui s'appelle l'INRS qui s'intéresse aux risques et à la prévention des risques professionnels, notamment liés au travail de nuit. Et dans leur enquête, on s'est rendu compte que les employeurs cherchent justement à éviter au maximum le travail de nuit parce que ça a des conséquences. Pourquoi ? Parce qu'on a une horloge biologique interne qui se cale sur le rythme du soleil. Donc on appelle ça un rythme circadien.
Un rythme de 24 heures.
Voilà. Et ce qui fait que la nuit, on doit dormir et la journée, on doit être en cycle de veille. Donc si on le perturbe, forcément, ça a des conséquences sur notre organisme.
Alors malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix que de travailler de nuit. Pour eux, malgré tout, du coup, quels sont les risques pour la santé?
Alors c'est vrai que le travail de nuit expose déjà, c'est le premier risque, à un surpoids, l'obésité, puisque finalement, la nuit, on sécrète une hormone qui devrait normalement ne bloquer la satiété. Or, en étant éveillé, on est stimulé, donc on a faim, donc on grignote.
Les fringales,
ouais. Les fringales nocturnes. Et puis finalement, tout le cycle devient désorganisé, le système hormonal est complètement chamboulé, donc il y a un risque très clairement de surpoids. C'est le premier des risques.
Alors, on prend du poids, vous venez de le dire. Raison de plus, peut-être d'ailleurs, si on travaille de nuit ou en oreille décalée, de consulter un nutritionniste pour avoir de bonnes règles,
exactement,
au moins une base pour essayer de limiter les dégâts. Mais ce n'est pas le seul risque, Jimmy, le poids.
Oui, alors ça c'est le premier. Et puis il y a une surmortalité, notamment liée aux maladies cardiovasculaires. On fait plus d'infarctus et d'AVC lorsqu'on travaille de nuit. Donc c'est pas à prendre à la légère. On sait en plus de ça que le travail de nuit nous rend plus somnolents et plus irritables. Et puis forcément plus propice à prendre parfois des médicaments pour dormir. Et on risque le suraccident lorsqu'on part le matin à 6h du matin, après une nuit qu'on doit prendre son véhicule. Il y a un risque d'accident évident.
Non, ça fait peur tout ça. Et chez les femmes, en plus, il y a quelques études aussi qui ont montré un risque de cancer du sein.
Eh oui, ça c'est assez terrible parce que l'INSERM s'est intéressé à ça et on s'est rendu compte que les femmes qui travaillent de nuit, alors la nuit c'est considéré comme 3 heures de travail entre minuit et 5 heures du matin.
D'accord.
Donc si vous faites 3 heures de travail entre minuit et 5 heures du matin, avant la ménopause, vous avez un sur-risque de près de 30% de développer un cancer du sein. Donc c'est des choses vraiment à prendre à la chose.
C'est pas obligatoire
non plus. Non, c'est un sur-risque. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi être un peu plus surveillé.
D'accord, et c'est ça justement le conseil pour ces femmes qui travaillent de nuit. Eh bien, on fait bien ses mammos tous les 2 ans quand on a plus de 50 ans et on se fait suivre régulièrement par un gynécologue. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Maude, 39 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, je vous contacte car j'ai une interrogation sur le fait que mon enfant ne veuille plus prendre au petit déjeuner de produits laitiers, enfin de lait particulièrement. Et pour le reste de la journée, c'est la même chose sur tout ce qui va être yaourt. Donc ça m'inquiète et j'aimerais avoir votre point de vue pour que ça me rassure. Je vous remercie.
Alors Jimmy, c'est vrai que vers 2-3 ans, quand on arrête le biberon, finalement, les enfants, par certains, hein, ont parfois du mal à passer au bol, et donc justement, arrête au bol ou à la tasse, hein, et arrête de boire du lait. Mais c'est grave ou pas en fait ? Est-ce que si on complète finalement avec d'autres produits laitiers, ça suffit ?
Alors on peut compléter, il faut compléter. Et ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à la diversification, le lait est un peu la base alimentaire de l'enfant. Et il faut retenir qu'entre 1 an et 3 ans, l'enfant doit avoir au moins 500 ml de lait, de préférence du lait de croissance, et si on n'a pas les moyens d'acheter du lait de croissance, au moins du lait entier. Et puis après, on complète avec des yaourts. Éviter les crèmes dessert puisqu'elles ont beaucoup de sucre et peu de lait. Donc donner un vrai yaourt, c'est aussi remplacé par du lait.
Et si vraiment l'enfant il n'aime pas les yaourts, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas, je sais pas, proposer des préparations à base de lait ? Enfin, si vraiment il n'y a aucun yaourt, aucun lait, on peut faire quoi ? Des gâteaux, par exemple, à base de lait, des crêpes, des choses comme
oui,
ça ?
Oui, pourquoi enfin, pas ouais. Vous pouvez jouer sur ça. Et puis, vous pouvez essayer avec le fromage. Et puis, il y a un truc qui marche bien, c'est bon, à faire attention, mais les céréales le matin, pas trop sucrées. Ouais. Ça permet la transition de façon un peu plus en souplesse. Donc, mais oui, alors fromage, oui, yaourt, oui, les crèmes, on évite. Et puis après, vous l'avez dit, dans la sauce béchamel, on peut mettre un peu de lait. Donc, on peut essayer de jouer sur ça pour compenser ses apports.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Maud, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des vertiges. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, la dermatologue Laurence Netter. Avec elle, il sera question de tous les problèmes de peau les plus fréquents chez les adultes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité du jour, la dermatologue Laurence Netter, pour parler des problèmes de peau les plus fréquents chez les adultes. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous avez décidé de nous parler des vertiges. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle vraiment vertige en fait ?
C'est vrai que souvent j'entends les patients dire « j'ai des vertiges ». Mais un vertige, c'est défini par le fait d'avoir la pièce qui tourne autour de soi, comme un manège. Mmh. Donc ça, c'est le vrai vertige. Lorsque la pièce tourne autour de vous, vous avez un vertige. À différencier de la sensation vertigineuse, donc c'est lorsqu'on est sur un bateau, on a l'impression que ça tangue.
Ah, c'est pas pareil, d'accord. Et à partir de quand, alors, du coup, il faut s'inquiéter quand alors, on sent ça, j'imagine, déjà.
Il y a des critères de gravité qu'il faut absolument connaître et que parfois les patients négligent. Si vous avez mal à la tête, donc des maux de tête d'apparition brutale, avec des vertiges égale urgence. Si vous avez mal au cou, au niveau du rachis cervical, même chose. Et puis bien sûr, si vous avez de la température, si vous vomissez, si vous avez des signes neurologiques, et puis notamment lorsque vous êtes hypertendu, les sensations vertigineuses peuvent être liées à un pic d'hypertension ou lorsque vous êtes diabétique, à une hypoglycémie.
Donc là, surtout, on consulte et on s'inquiète. Quelle est la cause finalement la plus fréquente des vertiges ?
Alors, il y a un truc tout bête, c'est ce qu'on appelle les vertiges positionnels, c'est-à-dire lorsque vous bougez la tête dans une certaine position, ça peut être à gauche, à droite, en avant, en arrière, c'est les vertiges bénins liés à l'oreille interne. C'est les petits cristaux qu'on a, et puis qui finalement se baladent dans tous les sens et font que votre oreille a l'impression que vous êtes sur un manège. Or, vos yeux voient bien que vous n'êtes pas sur un manège. Votre cerveau se dit « non, je suis stable » et pourtant l'oreille est persuadée que vous êtes sur un manège. Comme ces cristaux bougent dans tous les sens, eh ben, ça tourne autour de vous et ça fait vomir et on n'est pas bien.
Et ça se traite ça au moins ?
Oui, ça se traite avec certains médicaments sur ordonnance et puis parfois l'ORL ou le kinésithérapeute peut faire une petite manœuvre où il vous bascule d'un côté et de l'autre pour réaccrocher ces cristaux. C'est de la rééducation vestibulaire, ça marche très bien.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. Aujourd'hui, on parle de notre peau, à nous, les adultes, et tous les petits tracas qu'on peut avoir. On va parler acné en tout genre, acné, taches en tout genre, avec le docteur Laurence Netter. Elle est dermatologue à Paris.
15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Netter.
Bonjour.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Hein, aujourd'hui, dans votre cabinet, quand on parle de petits problèmes de peau, on va pas parler aujourd'hui de zona, d'eczéma, de vraies maladies de peau un peu plus sérieuses, mais j'imagine que l'acné chez l'adulte, c'est aujourd'hui un des motifs principaux de consultation ou pas ?
Alors, l'acné, c'est effectivement un des motifs les plus importants. On a un très gros pourcentage de nos patients, de tous âges d'ailleurs, qui viennent nous voir à partir de l'adolescence. Et également les acnés de la femme adulte, on en voit beaucoup actuellement.
Vous dites la femme, mais il n'y a pas d'hommes qui ont de l'acné ?
On voit plus souvent des acnés de la femme adulte que des hommes. On voit des hommes à l'adolescence, mais on voit également des acnés plutôt du dos chez les hommes adultes.
Jimmy ?
Et pourquoi on continue de faire de l'acné après 30-40 ans ? On pourrait croire que c'est un problème d'adolescent ?
Alors, c'est un problème aujourd'hui qui est probablement polyfactoriel. D'abord parce que avec la pilule, les femmes prennent un petit peu moins la pilule qu'avant. Et je pense que ça a probablement changé. Il y a des pilules qui ont probablement amélioré améliorer l'acné. Il y a des produits comme l'acétate de cyproterone qui est devenu non conseillé et qui protégeait bien de l'acné. Et aujourd'hui, on voit des femmes qui donc ont arrêté, par exemple, ce type de pilule, qui ont donc une recrudescence d'acné. Et puis... peut-être, ça n'engage que moi, les perturbateurs endocriniens qui, aujourd'hui, peuvent éventuellement modifier notre environnement hormonal et donner un petit peu d'acné. C'est possible. On voit plus, j'ai l'impression qu'on voit plus d'acné aujourd'hui que ce que l'on voyait ça fait 20 ans.
Et cet acné chez l'adulte, il est localisé au même endroit? Chez les ados, on sait que c'est souvent sur le front, sur le nez. Est-ce que c'est pareil chez l'adulte? Il est au même endroit?
Alors, l'acné de l'adulte, ça change un petit peu d'endroit. Chez les femmes, c'est surtout une acné qui est maxillaire, c'est-à-dire au niveau des mandibules, alors que chez l'ado, c'est plus haut, au niveau des joues, au niveau du front. Plus on prend de l'âge et plus l'acné descend, une topographie mandibulaire dans le cou.
Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, vous aviez dit dans le dos pour les hommes. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que cette acné chez l'adulte, comme chez l'ado, hein, y a des solutions. Vous commencez par quoi en général quand vous voyez un adulte qui arrive avec de l'acné, une femme, jeune femme par exemple?
Que ça soit l'adulte ou l'ado, c'est toujours la même chose. On commence par le plus simple et puis on réévalue.
Et donc moins fort au plus fort.
Toujours,
hein, c'est
du moins fort au plus fort. On commence par un traitement local à base de peroxyde de benzoyle, d'acide rétinoïque. Voilà. Il faut différencier les acnés inflammatoires des acnés rétentionnels. Si ça ne suffit pas, on rajoute un antibiotique par voie générale, en général, de la classe des tétracyclines pendant 3 mois.
Et si ça marche, c'est certain, et ça suffit. Hein,
ah
ça
oui,
marche,
ouais. Dans la très 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 grande majorité des cas. Et quand vraiment ça ne marche pas, que l'acné est sévère, on a l'isotrétinoïne, ce médicament qui existe maintenant depuis 35 ans.
Le Roaccutane, c'est ça, hein, je le dis moi.
Voilà, mais... le Roaccutane n'existe plus. Il y a 4 ou 5 génériques aujourd'hui avec d'autres noms.
On a beaucoup parlé parce qu'il y a des risques aussi, c'est ça, avec ce médicament.
Il n'y a pas de traitement sans risque. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que tout le monde a peur de tout et qu'on voit des patients qui ne sont pas traités, alors que nous, médecins, on a aujourd'hui la possibilité de traiter, je dirais, et de guérir pratiquement 100% des acnés.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On va continuer à en parler. Merci, docteur Laurence Netter. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va continuer à parler des problèmes d'acné, hein, évidemment. Et puis d'autres, hein, y en a d'autres, des problèmes de peau qu'on peut avoir à l'âge adulte. Par exemple, les taches de vieillesse qui ne sont pas toujours très esthétiques. Mais la bonne nouvelle, là aussi, vous allez voir, c'est qu'il y a des solutions. A tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et vous, docteur Laurence Netter. Vous êtes dermatologue et aujourd'hui, on parle des problèmes de peau les plus fréquents chez les adultes. Alors, on a commencé par l'acné. Vous nous avez parlé des crèmes, des traitements médicamenteux qui fonctionnent, hein, pour régler ça. Et puis, moi, je me demandais, les points noirs, est-ce que c'est de l'acné, c'est pareil ou pas?
Absolument, les points noirs, ça fait partie de l'acné. On a plusieurs types d'acné, soit ce qu'on appelle les acnés rétentionnels, avec une majorité de lésions rétentionnelles, c'est-à-dire des points blancs et des points noirs. Et puis il y a des acnés inflammatoires, où il y a plus de lésions kystiques, avec du pus à l'intérieur. Et puis on a des acnés mixtes. Mais les points noirs, c'est une forme clinique d'acné.
Et on traite ça bien aussi ?
On traite ça très très bien avec des produits locaux qui augmentent un petit peu la multiplication cellulaire. Donc ça augmente le renouvellement cellulaire, ça fait désquamer, ça désengorge la petite cheminée qui évacue le gras et ça élimine les points noirs.
Et on fait aussi des nettoyages de peau, vous m'avez dit avant de préparer l'émission.
Oui, absolument. Alors on peut faire un nettoyage de peau dermatologique avec une petite lame de bistouri. Alors on a des points noirs fermés et des points noir ouvert. Le point noir ouvert, on met la petite lame de bistouri au milieu du point noir et tout doucement, on évacue le gras qui est à l'intérieur.
Et ça, on peut le faire chez tous les dermatologues, a priori, ils le font.
Tous les dermatologues ne font pas de nettoyage de peau, ce qu'on appelle un peu pompeusement la petite chirurgie de l'acné. Il y a des dermatologues qui ont aussi des assistantes qui le font. Il faut questionner le dermatologue qui vous suit.
Alors, on va passer à un autre problème de peau très fréquent chez les femmes, notamment les taches de grossesse. C'est ce qu'on appelle aussi, je crois, le mélasma.
Le mélasma, le chloasma, le masque de grossesse. Alors, en prévention, il faut déjà éviter, pendant la grossesse, de se mettre au soleil. Il faut donc appliquer des crèmes avec... un indice de protection maximum. Et comme je dis toujours, ceinture et bretelles, crème et chapeau. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est protection maximum. Et puis malgré ça, de temps en temps, ça vient quand même.
Timmy ?
Alors, il y a aussi les tâches de vieillesse. Alors, je ne parle pas pour vous, Mélanie, bien sûr. Mais on remarque ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a des traitements qui marchent pour essayer de les atténuer un petit peu ?
C'est deux choses différentes, effectivement. C'est des tâches, mais ça n'a strictement rien à voir.
On les appelle comment aussi, ces tâches ?
Méchamment, oui. Méchamment des fleurs de cimetière, voilà, et gentiment des taches actiniques. Actiniques, ça veut dire dues au soleil.
D'accord. Et ça, donc on peut faire quelque chose contre ça ?
Oui, ça, on sait très très bien aujourd'hui les traiter.
Notez, Jimmy, par le laser, on peut les traiter.
Voilà, par le laser, par exemple. Si elles sont localisées, qu'il n'y en a que quelques-unes, on peut le traiter à l'azote liquide. L'azote liquide, on trempe un petit coton, un petit coton-tige. On fait un petit attouchement superficiel. De la tâche, ça fait une
petite croûte. Sur les
mains
en général ?
Non, les mains, il faut vraiment éviter l'azote parce que l'azote, ça donne des croûtes, c'est long à cicatriser. Sur les mains, il faut soit du laser, soit la lumière intense pulsée. C'est beaucoup plus doux, on a un résultat qui est beaucoup plus homogène qu'à l'azote.
Parce que l'azote, c'est le même azote qu'on utilise pour brûler des verrues, par exemple ?
C'est exactement la même chose.
Et du coup, ça va être douloureux et ça coûte combien ?
Ouais, ça fait un peu mal l'azote quand même. C'était... Moi, j'en ai souvenir pour des verrues.
Bah, alors, l'azote sur les verrues, il faut appuyer. Donc, il faut appuyer. C'est souvent les mains et les pieds sont des zones qui sont très douloureuses. Quand on enlève une tache à l'azote, c'est très superficiel. On effleure à peine. Ça ne fait que picoter. C'est pas très douloureux.
Il faut compter combien globalement pour
Il faut questionner les médecins. Moi personnellement, quand j'enlève une tache à l'azote, j'ai pas de surcoût par rapport à ma consultation.
C'est une consultation.
Je
fais
une
l'azote,
consultation.
Vous en avez,
j'en ai sur place une consultation et je privilégie mon acte diagnostique. Madame, monsieur, vous avez une tache, on le brûle. Sauf que là, c'est un petit peu limite, c'est de la médecine esthétique. Mais on privilégie, souvent ça se fait lors d'un contrôle général pour voir s'il n'y a pas des taches ou des
fins
de beauté un peu suspectes. Voilà.
Je reviens sur le masque de grossesse. On a dit qu'il y avait des moyens de le prévenir, mais pour le traiter, là, vous faites quoi ? Du laser aussi ?
Alors, c'est beaucoup plus compliqué, le masque de grossesse, parce qu'il ne faut pas déclencher avec le laser ou avec la lumière pulsée une inflammation. Sinon, on risque de faire ce qu'on appelle une pigmentation post-inflammatoire. Alors, on va remplacer le masque de grossesse par la pigmentation. Ça se traite avec des produits essentiellement qui contiennent de l'hydroquinone. Ce sont des prescriptions que vous font les dermatos et puis des antioxydants, des conseils sur la prévention solaire.
D'accord, docteur Laurence Netter. Vous restez avec nous. On a encore plein de questions à vous poser sur les tâches, toujours, et puis sur les autres problèmes de peau chez l'adulte.
Europe 1.
Dans quelques minutes, on va donc faire le point notamment sur la rosacée ou la coupe rose, ces petits vaisseaux rouges ou rosés que certains ont sur le nez ou les joues, qui ne sont pas toujours très jolis. Vous verrez que là aussi, la médecine a fait beaucoup de progrès. On peut les traiter. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Laurence Netter, dermatologue à Paris. Alors avant de passer à la coupe rose, à la rosacée, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on va quand même terminer là sur les fleurs de cimetière, donc les taches de vieillesse qu'on peut avoir sur les mains par exemple en vieillissant. Docteur Netter, est-ce que ces taches-là, donc de vieillesse comme on dit, est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce qu'on va tous en avoir en vieillissant sur les mains ou ailleurs ?
Alors, est-ce qu'on va tous en avoir ? Non, ça dépend de ce qu'on appelle le phototype. Le phototype, c'est la couleur de la peau et la capacité de la peau à bronzer. Comme de toute façon, on est au soleil, on reçoit des UV, on a une photodéfense, si vous voulez, qui est différente d'un individu à l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup plus de taches chez les blonds, roux, qui bronzent mal, que chez les phototypes élevés, c'est-à-dire les noirs et les méditerranéens.
Bon, donc moi, je suis rose, je vais en avoir plein. Jimmy, il est plus bronzé que moi ça et il va en avoir plein. Il ne va pas en avoir du tout, c'est pas gentil.
Mais ces taches sont essentiellement dues au soleil. Et donc, la prévention, c'est de se protéger du soleil. Aujourd'hui, on a des écrans qui sont de plus en plus performants. Donc, on peut les prévenir.
D'accord. Alors, on va passer justement donc à la rosacée, la coupe rose. D'ailleurs, est-ce que c'est pareil, ça, la rosacée, coupe rose, c'est la même chose ?
Alors, on a une maladie qui s'appelle la rosacée. Et la rosacée, c'est une maladie qui est chronique, plus fréquemment également chez les personnes qui ont le teint clair, qui
mais
est chronique.
Et, ouais, quand on a la peau claire, on n'a pas de chance.
et qui peut... dans certaines formes se résumer à de la couprose et à une telangiectasie, c'est-à-dire des vasodilatations, des vaisseaux qui sont un petit peu plus gros et qui donnent un aspect rosé au teint. Donc soit des flushes au départ, et puis ensuite ces flushes...
On dirait des petits vaisseaux qui cassent, qui pètent, comme
voilà,
on dit, sur le
nez ou sur
les...
Ça s'appelle des telangiectasies, des petits vaisseaux, et puis ensuite ça fait une couprose qui reste plus ou moins
sur
de façon
nez,
fixe
souvent, hein,
sur le nez. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on traite très bien cette, cette couprose et cette...
Et parfois, ces petits vaisseaux. Des pustules sur le nez, c'est la même maladie.
Alors, ça, c'est la rosacée pustuleuse. C'est une autre forme clinique de cette rosacée. Il y a des formes qui sont purement vasculaires, des formes qui sont vasculaires, plus des petites lésions, des petits boutons qui apparaissent dessus. Ça dépend du stade de la maladie.
Et on traite comment ? Ah, pardon, Jimmy.
Non, je n'en rien.
Alors, les formes pustuleuses, ça se traite un peu comme l'acné. Ça n'a rien à voir avec l'acné. Hein. On n'emploie plus le terme d'acné rosacée, c'est la rosacée. D'abord avec des crèmes. Si la crème ne suffit pas, crème plus antibiotique. Voilà. Et puis, on traite également la couprose qui est dessous avec les lasers. Le laser YAG, qui est un laser qui est absorbé par le rouge.
Jimmy ?
Et je vois parfois des patients culpabilisés avec cette maladie en me disant bah, « Pourtant, je ne bois pas d'alcool.
Oui, »
Et souvent,
vrai.
On me dit bah, « voilà, des gens disent bah, « Voilà, c'est un alcoolique, il a le nez rouge, regardez. » Parce qu'on peut rassurer les gens, leur dire...
C'est stigmatisant comme maladie.
Ah, oui, ils sont très mal dans leur peau. Ils se sentent,
Ça n'a rien à voir avec l'alcool. Ce n'est pas parce qu'ils boivent de l'alcool. La rosacée est une maladie en soi. Par contre, quand vous buvez de l'alcool, que vous ayez de la rosacée ou pas, l'alcool dilate les vaisseaux. Donc, ça vient un petit peu de là, ces idées reçues. Et puis, quand on a de la rosacée et qu'en plus, on boit un petit verre de rouge le soir, ben, on est encore plus rouge.
Ah oui,
voilà.
Oui, ça s'aggrave.
C'est vasodilatateur,
ça s'aggrave avec
l'alcool. Ça augmente le diamètre du vaisseau. Donc,
Vous avez dit que ça se soignait notamment, enfin, ça se traitait avec des lasers. Il faut y revenir combien de fois et ça coûte combien si on veut se faire traiter cette couprose, justement ?
Là, il faut questionner le praticien qui fait des lasers.
Des tarifs moyens, disons.
Il faut, alors, ça s'entretient un peu. Vous m'avez parlé, là, il y a deux questions. Vous me dites est-ce qu'il faut y revenir plusieurs fois ? Si c'est quelques petits vaisseaux de couprose, on peut même les coaguler au bistouri électrique. C'est une méthode ancienne qui est beaucoup moins chère que le laser, mais ça marche très, très bien. Si c'est une petite couprose, une seule séance est suffisante. Ça dépend un petit peu du type de laser que l'on a. Et puis, comme c'est une maladie qui est évolutive, souvent, on est obligé de refaire des séances tous les 2-3 ans. Le coût dépend...
C'est pas 5000 euros non plus.
Mais non, c'est 100-200 euros.
D'accord.
C'est pas... Non. Ça dépend du praticien.
Et c'est pas remboursé, parce qu'on disait avec Jimmy que c'était très stigmatisant pour les patients, et du coup, ils doivent le payer.
Les angiomes sont remboursés. C'est-à-dire que si vous avez des tâches, que vous naissez avec des tâches
Oui, mais si je suis très complexée, j'ai cette maladie, j'arrive même pas à trouver du travail tellement j'en suis... ça m'angoisse. On peut pas imaginer une prise en charge.
Qu'on doit pouvoir imaginer, absolument.
D'accord. Alors, on va peut-être dire un mot quand même, puisqu'on parle des tracas, on va dire légers de peau chez l'adulte, des grains de beauté. Les grains de beauté, on sait aujourd'hui, on entend beaucoup, surtout quand l'été approche, les risques de mélanome, etc., qu'il faut beaucoup les surveiller. Mais est-ce qu'il y a des gens qui doivent plus les surveiller que d'autres, et à quel rythme on va chez le dermato pour faire surveiller ces grains de beauté, justement ?
Alors, c'est toujours un petit peu la même question du phototype. Vous avez les personnes...
Encore une fois, les blancs.
Oui, encore les personnes qui ont la peau mate, qui n'ont pas pris de coups de soleil dans l'enfance, puisque le facteur primaire le plus important du mélanome, c'est le coup de soleil pendant l'enfance. Donc, si vous n'avez pas pris de coup de soleil, si vous êtes né avec peu de grains de beauté, ce qu'on appelle des névis, et s'il n'y a pas de changement d'une année à l'autre, venir tous les ans faire vérifier ses grains de beauté pour remontrer la même chose, ce n'est pas très productif.
Par
contre, ce qu'il faut vraiment
dire
au patient, c'est qu'une lésion qui sort, qui n'était pas là, qui n'a pas été diagnostiquée, il faut venir rapidement. On a la chance d'avoir ce cancer sous les yeux, il ne faut pas attendre, il faut venir la voir, la montrer. Parce que souvent, on a été contrôlé un mois avant, et la lésion apparaît après. Puis, chez les personnes qui sont des personnes à risque, peau claire, grosse tendance à prendre des coups de soleil, nombreux grains de beauté, là, il faut venir montrer ses grains de beauté tous les ans.
Jimmy ?
Et vous avez raison, parce que je dis souvent aux patients, il ne faut pas attendre d'être malade pour se soigner. N'attendez pas la maladie. Donc, allez voir le dermatologue régulièrement. Mais maintenant, si un patient a beaucoup, beaucoup de grains de beauté, est-ce qu'il doit y aller pour autant plus souvent chez le dermatologue ?
Oui, c'est un facteur de risque du mélanome, c'est le nombre de grains de beauté.
Donc, c'est quoi beaucoup, d'ailleurs ?
On dit plus de 20.
Ah oui, plus de 20.
Mais ça ne veut pas dire grand-chose. S'ils sont tous très réguliers...
Voilà, mais on ne les surveille pas plus ceux qui sont un peu en relief.
C'est le dermato qui va dire au patient qui vient pour un premier contrôle, je veux vous voir chaque année, ou alors, écoutez, vous n'avez aucun grain de beauté, tout va bien, faites attention à ne pas prendre de coups de soleil. Par contre, si quelque chose sort, vous venez nous le montrer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 8 mélanomes sur 10, ce sont des lésions qui apparaissent. Ce ne sont pas des grains de beauté qui dégénèrent.
Préexistants, oui,
c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc quelque chose que vous ne connaissez pas qui apparaît, mieux vaut venir consulter pour rien que de passer à côté de quelque chose.
Il faut aussi inspecter entre les orteils, sous, derrière les pieds, des endroits où nous, on n'a pas forcément accès.
On déshabille le patient complètement, on regarde de la tête aux pieds,
les parties génitales, tout.
Voilà, et entre les orteils.
Pour terminer quand même, on voulait vous poser une question. Avec Jimmy, hier, on a dû répondre à une auditrice qui me posait la question, à quel rythme réellement il faut se laver, donc laver sa peau, hein. Une douche tous les jours ou pas. Il y a des tendances en ce moment depuis cet été à dire, lavons-nous moins, les dermatologues disent que ça peut décaper en quelque sorte la peau. En fait, la vérité c'est quoi? À quel rythme il faut se laver, prendre des douches tous les jours?
Je dirais qu'à la limite, on voit des patients qui se décapent trop, beaucoup plus souvent.
Donc on se lave trop, c'est bien ce que vous dites. Ouais.
Beaucoup plus souvent que des patients qui ne se lavent pas assez. Il faut se laver évidemment toutes les zones qui sont des zones qui macèrent, c'est-à-dire
les parois,
entre les orteils tous les jours. Maintenant, si on se savonne de la tête aux pieds qu'un jour sur deux, ça va très bien. Il faut avoir une hygiène correcte, utiliser des produits doux qui ne décapent pas.
C'est les produits surtout qui comptent, hein, c'est ça?
C'est surtout le produit. C'est pas la forme du produit. Vous pouvez utiliser une huile nettoyante, un gel, mais un produit sur gras qui ne décape pas trop et non pas le savon de Marseille qui vous enlève ce qu'on appelle tout le film hydrolipidique de surface qui évite le dessèchement de la peau.
Ah, c'est intéressant, et savon de Marseille, parce qu'on pense que savon de Marseille, c'est bien.
Ça, c'est le naturel qui revient au galop.
Ouais. Eh bien non.
Non.
Et pour le visage, parce que là, on a parlé de la douche, donc on va dire le corps complet, la peau du visage, elle est un petit peu plus fragile quand même. Là, c'est quoi votre formule pour tous les jours, quand on n'a pas forcément de problème de peau, mais juste pour en prendre soin et qu'elle soit bien propre?
Alors, le soir, on rentre, on choisit la galénique que l'on préfère, l'eau micellaire, le gel sur gras, le lait.
Donc, on nettoie tous les soirs.
On nettoie, parce qu'il y a des cellules mortes, du sébum, des bactéries, on nettoie tous les soirs. Et puis, le matin, si on n'a pas une peau grasse et si on a tendance à avoir la peau sèche, on ne nettoie pas une deuxième fois.
Une petite crème hydratante, un antiride si besoin.
Et
l'antiride, vous m'avez dit quelque chose de rigolo. Finalement, ce n'est pas le prix qui compte. Hein.
Certainement pas. Ce n'est pas le prix qui compte, c'est la molécule. Il faut savoir que des grosses marques comme, par exemple, L'Oréal, ce qui est cher, c'est la recherche. Et ensuite, ils ont toute une gamme de laboratoires, de distributeurs qui vont des gammes de luxe jusqu'à des gammes de supermarchés. Une fois que la molécule, ils l'ont et que la molécule a prouvé une certaine efficacité, ils la déclinent surtout dans toute leur gamme.
Merci beaucoup, docteur Laurence Netter, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on a toutes les armes pour garder une jolie peau, même avec les années qui passent. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, on va s'intéresser à un geste médical que redoutent beaucoup de femmes, surtout celles qui sont enceintes, l'épisiotomie. Pourquoi la pratique-t-on encore autant et comment s'en remettre au plus vite après un accouchement? On se retrouve dans quelques minutes. Restez sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours sur Europe 1 de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence les bobos du quotidien. Alors aujourd'hui on parle d'un gros bobo quand même, l'épisiotomie. Moi personnellement ce mot m'a toujours fait un petit peu peur, mais même quand je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, en fait j'avais peur je crois. Et vous justement, quels sont vos a priori sur le sujet ou quelle a été votre expérience si vous en avez eu une? Benjamin Lévesque a été vous poser la question et vous allez entendre que beaucoup d'hommes ne sont pas très au point sur la question.
Épisodectomie et épidoctémie. Alors là, comme ça me dit absolument rien. Ça se pratique en France?
Épisiotomie, non, c'est un lien entre... je pense que c'est lié, c'est pas l'équivalent des épidémies, mais c'est quelque chose qui vient affecter le métabolisme. Mais...
C'est gynécologique, mais après, je sais pas du tout vous expliquer scientifiquement et en pratique ce qu'il en est, je peux pas vous expliquer.
Ça fait peur?
Évidemment.
c'est ce qu'on a pendant l'accouchement, j'en ai eu une il y a deux mois du coup. C'est une petite incision qu'on fait au niveau du périnée de la femme au moment de la naissance du bébé. Je suis sage-femme en fait.
Alors ça compte pas, une sage-femme évidemment qu'elle connaît. Bon, je dois reconnaître que j'ai beaucoup ri au début du micro-trottoir avec tous ces hommes qui savent pas vraiment ce que c'est ni même où ça se situe. Alors Jimmy, d'abord on va peut-être faire un petit cours d'anatomie, ça se passe où l'épisiotomie?
Alors l'épisiotomie c'est un acte chirurgical qui consiste à inciser une petite partie du périnée pour éviter les déchirures graves, notamment le muscle élévateur de l'anus au moment de l'accouchement, car lorsque le bébé passe, ça entraîne des contraintes, et donc forcément il y a un risque de déchirure. Et le périnée, c'est cet ensemble de muscles et de ligaments qui se situe entre l'anus et le vagin. C'est une forme de hamac qu'on a entre le coccyx et le pubis. Et donc, ce périnée a un rôle très important dans la conservation des organes pour les maintenir à leur bon endroit. Et puis, lors de la continence, d'où l'importance de faire la rééducation du périnée pour éviter les fuites urinaires ensuite.
On va y venir sur l'après, mais d'abord, avant d'accoucher, on se demande finalement, est-ce que c'est systématique cette épisiotomie ? Alors, on a l'impression qu'à une époque, on en faisait beaucoup. On dirait qu'on en fait un peu moins quand on accouche par voie basse. Est-ce que il faut se préparer, quoi qu'il arrive, à y passer ?
Alors, il faut se préparer et souvent, c'est fait lors des préparations de cours à l'accouchement. Ouais. La sage-femme explique que c'est possible et j'aimerais rappeler aux gens une chose, c'est que bon, l'épisiotomie est souvent faite par les sages-femmes parce que c'est la sage-femme qui fait l'accouchement lorsque ça se passe bien. Et n'allez pas croire que ça amuse une sage-femme de faire une épisiotomie. Mmh. Parce que derrière, il faut suturer.
On leur en veut souvent.
Mais finalement, si elles le font, c'est que c'est nécessaire. C'est que on pense que la tête du bébé ne va pas passer correctement. Il y a un risque de déchirure. Donc, si elles le font, c'est que.
Il y a même un risque pour le bébé s'il ne sort pas tout de suite.
Exactement.
Parfois,
lorsque l'enfant stagne et que le cœur ralentit, il faut aller un peu plus vite. Donc là, on facilite un petit peu le travail. Donc, c'est un acte chirurgical qu'on fait un peu moins qu'auparavant. Mmh. C'est moins systématique. Il y avait une tendance auparavant à faire ça. Mais croyez-moi que si elles le font, c'est que c'est nécessaire. C'est pas du tout un plaisir, car derrière, il faut suturer, ça prend du temps. Mmh. On sait que ça peut être douloureux. Donc vraiment, 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 il faut l'accepter.
Alors, c'est douloureux pendant qu'on vous l'a fait, cette épisiotomie, ou pas d'ailleurs. Bon, je fais l'ingénue, même si je sais très bien ce que c'est, puisque j'en ai eu une, mais quand on accouche sous péridurale, moi, personnellement, j'ai rien senti. Mais péridurale, est-ce que ça fait mal ?
On sent rien, puisque finalement, la zone est anesthésiée. De la même façon, on sent qu'il se passe quelque chose lorsque le bébé passe, mais il y a l'anesthésie. Et puis, lorsqu'on n'a pas eu la chance d'avoir une péridurale parce que le travail s'est déroulé très vite ou qu'on ne peut pas en avoir, eh ben, c'est pas si douloureux que ça. On le fait vraiment au moment où la peau est le plus distendue pour que ce soit le moins douloureux. Et c'est vrai que.
Le bébé est déjà presque prêt
exactement,
à sortir.
Exactement. Le
général,
bébé est prêt à sortir. Et donc, la douleur de l'accouchement est presque plus forte que celle de l'épisiotomie.
Ça fait plus mal l'enfant qui passe que
l'épisiotomie.
Cette petite coupure.
Exactement.
Enfin, ce n'est pas une coupure, c'est un petit coup de ciseau.
Un petit coup de ciseau, une petite incision pour faciliter le travail. Et donc, à ce moment-là, pas d'angoisse. En règle générale, ça fait pas très mal.
Et alors, est-ce qu'on peut la refuser justement au moment de l'accouchement ? Est-ce qu'on vous prévient d'ailleurs qu'on va vous faire une épisiotomie ? Je sais qu'à une époque, ça se faisait genre on ne disait jamais rien. Alors, maintenant, justement, les sages-femmes, les médecins, les obstétriciens, ils ont été un peu sensibilisés. On a beaucoup parlé ces derniers temps des violences obstétricales, du fait qu'on infantilise les femmes. On leur fait des gestes sans même leur expliquer ce qui leur arrive.
C'est vrai.
Aujourd'hui, on prévient
et faut reconnaître que les sages-femmes sont peut-être un peu plus à l'écoute que les gynécologues, car elles ont peut-être un peu plus de temps et un peu moins de patience, et forcément, ou peut-être plus d'empathie, je ne sais pas. Mais toujours est-il que lors de la préparation à l'accouchement, on va vous expliquer tout ça. Et vous pouvez dire, moi j'ai une grande crainte, et à partir du moment où on vous explique pourquoi on vous fait l'épisiotomie, il serait un peu bête de la refuser, parce que si derrière, vous avez le muscle élévateur de l'anus qui se met à être déchiré, bah vous risquez une incontinence anale sévère.
Donc on n'a pas le droit de la refuser, en fait, on a toujours le droit.
Vous avez toujours le droit, mais ce serait vraiment bête. Vous risquez d'avoir une incontinence, pour la vie sexuelle, ça peut être compliqué, s'il y a une déchirure grave. Donc, vous avez toujours tous les droits, mais vraiment, en règle générale, lorsqu'on vous explique pourquoi on le fait
et
que c'est dans l'urgence, en général, c'est quand même bien accepté.
Je sais qu'il y a des sages-femmes qui proposent aujourd'hui des séances de préparation du périnée, soit avec des outils ou sans, avec des huiles, des massages. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment préparer son périnée avec des sondes ou autres, ou des crèmes, pour éviter d'en avoir une, quoi,
alors,
le préparer avant l'accouchement.
Apparemment, ça commence à se développer, ça se fait, mais scientifiquement, rien n'a été prouvé. Il n'est pas prouvé que utiliser des huiles de massage, des sondes de rééducation avant l'accouchement permet de réduire le nombre d'épisiotomies. De la même façon que vous pouvez voir un bébé de 2,7 kg et avoir une épisiotomie, ou un bébé de 4 kilos et pas d'épisiotomie. Donc ça dépend aussi de la qualité de votre peau, de la richesse en fibres musculaires. Donc les femmes ne sont pas toutes égales face à l'épisiotomie.
Et on s'en remet, on est d'accord en général ?
Oui, on met quelques points de suture, souvent on donne des anti-inflammatoires durant les 3 premiers jours, et puis ça passe, et puis derrière, après, il n'y a plus de séquelles, plus de cicatrices, plus de douleurs.
Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour tous ces conseils rassurants.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, Catherine Blanc, notre sexologue, va nous parler de positions sexuelles. Quelles sont celles, s'il y en a, qui procurent le plus de plaisir aux femmes ? Elle nous dira tout. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour tous les deux.
Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on parle de sexualité avec des sujets qui nous concernent tous. Aujourd'hui, on parle de position sexuelle avec cette question qu'on a reçue de Jérémy, 24 ans. Bonjour Catherine, je voudrais savoir quelles sont les positions qui permettent à la femme d'avoir le plus de plaisir. Bon, Catherine, on voit que Jérémy veut en savoir plus hein, sur les positions qui procurent le plus de plaisir aux
Jérémy
femmes.
Jérémy a 24 ans.
Ouais,
hein,
donc
Jérémy,
il est très soucieux de ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on lui répond à Jérémy donc?
Bon, cette question est délicieuse parce que évidemment que ça raconte plus l'inquiétude de Jérémy quant à ce qu'il doit être, faire pour être reconnu, pour que la compagne avec qui il ferait l'amour récidive ou le mettre dans le top 5 de ses amants. Enfin, la question, c'est pas ça.
La c'est sexualité, plutôt sympa c'est... d'être aussi soucieux pour un jeune garçon comme
oui,
ça.
Oui, mais c'est moins soucieux pour elle que ça n'est soucieux pour lui, son inquiétude quant à sa propre performance. Mais ça, c'est humain. Et je dirais particulièrement masculin aussi, puisque les messieurs aiment l'idée de savoir comment ça fonctionne et on ne peut pas leur en faire le reproche.
Ils veulent d'ailleurs, le mode d'emploi, c'est ça?
Exactement, mais on ne peut pas leur en faire le reproche. D'ailleurs, ça nous sert bien, même pour l'électroménager. Donc, tout ça est tout à fait intéressant. Et puis aussi parce qu'il faut comprendre que, là, si je plaisante, ce n'est pas du tout méprisant parce que les hommes ont une habitude de savoir comment ça fonctionne, eux, parce que leur sexe est extérieur et qu'ils ont pris l'habitude de le manipuler, de savoir comment l'amener à un point ou à un autre, alors que le sexe féminin est un énorme mystère pour la femme elle-même. Mmh. Donc, pour penser donc pour les hommes.
Jimmy.
Alors, je ne m'inclus pas dans la question.
Bien sûr, on prend toujours beaucoup de précautions en sexo,
oui,
Jimmy.
Oui, mais quand même, est-ce que vous n'avez pas deux, trois positions un peu concrètes qu'on pourrait donner pour des auditeurs
lui aussi veut le mode
mal,
d'emploi
et qui pourraient peut-être aider à atteindre l'orgasme?
Alors, il y en a peut-être quelques-unes quand même qui sont les plus...
Je dirais que toutes les positions le sont. Simplement, tout dépend de quoi nous parlons. Si nous parlons du fantasme qui va être à l'origine de l'excitation très forte d'une femme, eh bien tout dépendra de ce qui est dans sa tête. Donc elle aimera plutôt les positions où elle est peut-être moins engagée, peut-être comme des positions qui est la position du missionnaire, etc. Parce que là, elle va pouvoir laisser faire, accueillir, etc. Mmh. Et cela la rassure. Du coup, ça lui permet d'aller plus naturellement vers le plaisir. Mais elle peut avoir le sentiment que c'est plutôt quand elle ne voit pas ce qui se passe. Comme ça, elle peut être dans sa tête et pas polluée par le regard de l'autre, donc plutôt de dos. Mais sinon, si on se base plutôt sur la physiologie, mmh. puisque là est la question, voilà, évidemment, aussi, mais on ne peut pas les décorréler l'une et l'autre, hein, bien sûr. Eh bien, c'est fondamentalement ce qui va solliciter ces points de terminaison nerveuse les plus sensibles. Donc, si c'est une femme qui a plus de mal à accueillir l'intériorité de son sexe dans son vagin, eh bien, elle va aimer plutôt ce qui va frotter le clitoris, donc le gland du clitoris. Mais n'oublions pas que le clitoris a un corps, comme le pénis a un corps. Hein, le gland du pénis et le corps du
jusqu'à
pénis,
l'intérieur de...
qui est donc qui se fait en deux ramifications qui entourent le vagin. Et donc, elle peut préférer au contraire une pénétration plus profonde, qui d'ailleurs va solliciter aussi le col de l'utérus. Et à ce moment-là, ce sont plutôt des positions, notamment la position dite d'Andromaque ou de Vénus, c'est-à-dire celle où la femme est assise sur l'homme, qu'il soit assis lui-même ou qu'il soit allongé. Parce que du coup, elle va pouvoir maîtriser, dans la façon qu'elle aura de bouger, maîtriser sa façon de venir se poser sur ce pénis et se frotter contre ce pénis. Donc en fait, selon qu'elle préfère une stimulation extérieure ou une stimulation intérieure, elle va choisir des positions qui vont solliciter des parties de son sexe. Donc c'est à l'homme, souvent, cette expression « l'homme propose, la femme dispose », que l'homme propose des positions, mais qu'il soit à l'écoute de comment elle va se mouvoir, comment elle va elle-même bouger, pour peut-être bousculer un peu l'idée de départ masculine, mais pour atteindre ce qu'elle sent intuitivement être en appel dans son corps.
Et une femme qui n'a pas du tout de plaisir pendant les rapports sexuels, est-ce que ça veut dire justement qu'il faut changer un peu de position ? Est-ce qu'elle peut essayer justement ?
Elle peut essayer, bien sûr. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi c'est à l'homme. Ben là aussi, hein, l'homme n'a pas à faire toutes les positions du Kama Sutra, parce que ça y est, on a fait la totalité.
Il y en a qui sont impossibles quand même. Il y en a, on dirait des... quand on le regarde un petit peu, le Kama Sutra, il y a des.
Non, je sais pas. C'est...
Voilà, il y a des.
Oui, il faut du mobilier aussi, parce qu'il faut un petit tabouret, et puis il faut un petit.
Bon, en tout cas, changer de position, ça peut être une solution. Ouais.
Oui, bien sûr, ne serait-ce que pour le plaisir corporel. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas toujours, au bout d'un moment, on en a marre d'être dans une position, on en a marre d'être pressé, compressé, on a besoin de plus de liberté. Et puis aussi, c'est pas à l'homme d'agir exclusivement. Il a tout à gagner à être accompagné, comme dans une danse, par les mouvements de sa compagne.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain, voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on parlera notamment des greffes capillaires et même d'une toute nouvelle méthode d'implant.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.